Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Le 7 novembre dernier, trois professeurs de sciences économiques et sociales, Gwenaël Prudhomme, Brigitte Labbaye, Amina Saoudi, présentaient à la librairie Majolir le livre de Thomas Piketty, « Le capital au XXIe siècle », paru en 2013 aux éditions du Seuil. Écoutons-les.
Son ouvrage contient des données inédites, extrêmement complètes sur les inégalités, l'évolution des inégalités, à la fois sur très longues périodes et dans de très nombreux pays du monde. C'est un livre qui est très dense. Thomas Piketty nous montre, après une période de réduction des inégalités, il semblerait qu'on aille vers une période de réaugmentation des inégalités. Il ne dit pas à aucun moment dans son livre que les inégalités sont problématiques en soi. Mais il évoque en filigrane dans son ouvrage et à plein de moments le fait qu'au-delà d'un certain degré tout de même, l'existence d'inégalités trop importantes va poser différents problèmes. Et il nous a semblé important peut-être de rappeler ça en introduction, avant d'analyser les inégalités, de rappeler les problèmes que Thomas Piketty identifie comme étant causés par un trop grand degré d'inégalités. Pour lui, les inégalités ont un premier problème de justification. C'est que les inégalités, quand elles dépassent un certain degré, ne sont pas véritablement justifiées. Il prend l'exemple des inégalités de patrimoine notamment, hein, qui de fait ne sont pas le résultat du mérite, des efforts des individus, mais du coup simplement d'un héritage, d'une transmission de génération en génération. Il nous dit qu'en 2010, 70% des patrimoines en France sont des patrimoines hérités. Alors certes, on peut dire que cet héritage provient du mérite de nos ancêtres, mais voilà, il souligne que cet héritage, il génère des revenus extrêmement importants pendant des durées extrêmement longues qui deviennent complètement déconnectées du mérite. À titre d'exemple, il prend l'exemple de la fortune de Bill Gates qui, entre 1990 et 2010, est passée de 4 milliards à 50 milliards de dollars, alors même que sur cette période, il a ralenti puis cessé son activité. Ou l'exemple de Liliane Bettencourt qui, sur la même période, voit sa fortune passer de 2 milliards à 25 milliards d'euros, alors qu'elle n'a effectivement jamais travaillé. Donc effectivement, les inégalités posent problème quand elles ont du mal à être justifiées par des capacités ou des efforts que les individus effectuent. De manière analogue, il parle des revenus, hein, il explique que, notamment, on le voit, la rémunération des cadres dirigeants, principalement, qui ont beaucoup augmenté depuis les années 90, ne sont pas liées à une augmentation de leur productivité, en fait. Il parle même plutôt du développement de ce qu'il appelle une rémunération de la chance. On voit plutôt que les rémunérations des cadres dirigeants varient plutôt en fonction d'événements extérieurs qui n'ont aucun lien avec leur efficacité, leur mérite. Deuxième problème qui soulève, hein, des inégalités trop importantes sont quand même dangereuses pour Piketty pour le bon fonctionnement de la vie en société. On sait que les inégalités de revenus génèrent tout un tas d'autres inégalités, des inégalités d'accès à la scolarité, au logement, à la santé, à certains biens de consommation, parfois même élémentaires. Et quand on a des disparités trop grandes comme ça, d'accès à certains biens élémentaires, ça crée un terreau extrêmement favorable à l'émergence de conflits sociaux, qui sont parfois des conflits très violents. Et à ce titre, beaucoup d'études le montrent, hein, qu'on a une corrélation forte entre les pays dans lesquels le niveau d'inégalité est très élevé et la délinquance, les homicides, les dépressions, etc., etc. Donc pour lui, ça met à mal la capacité d'une nation à vivre avec un minimum de cohésion sociale. Il dit aussi que si on laisse se développer la trop grande richesse, on va donner à certains groupes d'individus la possibilité d'influencer le pouvoir, en fait, par le financement des campagnes, des partis politiques, de groupes d'intérêts, de lobbies, de groupes réflexion et qu'on donne, en laissant la très grande richesse se développer, un pouvoir politique à une certaine partie de la population qui du coup n'est pas représentative du reste de la population. Donc pour lui, on a un réel enjeu démocratique à maintenir effectivement les inégalités à un niveau qui serait plutôt moindre. Dernière chose qu'il met en lumière, il montre qu'il y a un lien pour lui entre le niveau d'inégalité dans le monde et les crises financières. Et notamment, il analyse le rôle des inégalités dans le déclenchement de la crise des subprimes, donc la crise bancaire, financière, aujourd'hui économique, qui avait démarré en 2007 aux États-Unis. Et pour lui, effectivement, qui a pris effectivement ses racines dans les inégalités. Le fait que le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires est complètement stagné, qui les a poussés à l'endettement. Quand en parallèle, on laisse la fortune des plus aisés se développer, on pousse les banques à utiliser la fortune, l'épargne de ces gens les plus développés pour financer des emprunts, du coup, non remboursables, ce qui a donc généré effectivement la crise des subprimes.
Et la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la richesse ? Alors, pour les économistes, la richesse, ça représente en fait la production qui découle d'une activité humaine. Et cette production, pour qu'elle ait lieu, elle nécessite le recours à de la main-d'œuvre, à des travailleurs. C'est ce qu'on appelle en fait le facteur travail. Et puis elle nécessite également le recours à des machines, à des outils, à des locaux, à des matières premières. Et c'est ce qu'on appelle en fait le facteur capital. Et la combinaison des deux, facteur travail et facteur capital, permet de générer un niveau de production. Et ce niveau de production sera évalué chaque année à travers un indicateur qui est le PIB, le produit intérieur brut. Donc deux facteurs de production, le facteur travail qui représente en fait la main d'œuvre, le facteur capital, les locaux, les outils, les machines qu'on est amené à utiliser. Un niveau de production sera généré, qui annuellement sera évalué avec l'indicateur qui est le PIB, produit intérieur brut. À partir de là, donc on peut se demander qu'est-ce que la croissance ? On parle de croissance lorsqu'en fait la quantité de richesse générée sur une année augmente, et ce sur plusieurs années consécutives. Alors, on peut aussi mettre en parallèle, et on doit mettre en parallèle pour pouvoir apprécier le niveau de croissance, à la fois la variation de la population et en même temps la variation du PIB. Et si par exemple la population double sur un instant, et il faut qu'en parallèle le PIB augmente beaucoup plus vite pour qu'on puisse parler d'une amélioration du niveau de vie. Alors pour pouvoir un petit peu apprécier le taux de croissance et mesurer si le taux de croissance est important ou pas, on va partir un petit peu de cet exemple-là et supposer que sur une année, une année initiale, 2010, on ait un PIB de 100 et que le taux de croissance annuel soit de 1%. Au bout d'un an, on a, avec un taux de croissance de 1%, un PIB qui s'élève à 101 euros. À l'horizon 2030, avec un taux de croissance de 1% par an, on aurait un PIB qui augmenterait de façon globale de 35%. Et puis, beaucoup plus tard, à l'horizon 2080, le PIB doublerait à raison d'un taux de croissance de 1% par an. Et à partir de là, on va se demander du coup comment est-ce qu'on va répartir cette richesse annuellement. Alors on répartit la richesse en fait en récompensant, en rémunérant tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Alors qui a contribué à sa réalisation ? On a d'une part les travailleurs qui vont percevoir principalement ce qu'on appelle un salaire, et ça renvoie à ce qu'on appelle des revenus du travail, très simplement. Et on a aussi ceux qui ont fourni du capital, ceux qui ont fourni des locaux, des machines, et ils vont percevoir ce qu'on appelle des revenus du capital ou revenus du patrimoine. Et c'est à ce titre-là qu'on va retrouver, par exemple, les propriétaires de biens immobiliers qui vont percevoir des loyers, les actionnaires qui vont percevoir des dividendes, ou encore les créanciers qui percevront des intérêts. Du coup, cette richesse générée, qui est mesurée à travers le PIB, va donner suite à une rémunération de ceux qui ont contribué à sa réalisation. Et ce premier partage renvoie à ce qu'on appelle en fait la répartition primaire des revenus. Déjà, cette répartition primaire des revenus sera révélatrice d'inégalités, dans la mesure où on va avoir d'abord des inégalités entre ceux qui perçoivent les noms du travail, simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes qualifications, les mêmes niveaux d'expérience, qu'on va avoir déjà des inégalités qui vont se dessiner à ce niveau-là. On va aussi avoir des inégalités entre ceux qui fournissent simplement du travail dans la phase productive et ceux qui fournissent à la fois du travail et du capital. Donc d'un point de vue beaucoup plus global, on aura des inégalités qui vont se dessiner là aussi. Et on aura aussi des inégalités entre ceux qui perçoivent des revenus du capital, puisque selon la taille du patrimoine qu'on détient et selon aussi les niveaux et degrés de rémunération qui sont associés à ce capital, on peut avoir aussi des contrastes qui sont importants. Et à partir de là, on va avoir une seconde répartition qui va se générer, puisque ces revenus du travail et du capital vont être soumis à des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations. prélèvements obligatoires qui vont constituer pour l'État des recettes, lesquelles vont permettre notamment de financer les services publics, mais également de verser des prestations sociales, qu'on appelle aussi des revenus secondaires. Alors, à ce titre-là, une remarque doit être faite, c'est que Piketty, dans son ouvrage, se focalise uniquement sur la répartition primaire des revenus. C'est-à-dire qu'il nous propose et il nous présente la répartition qui est faite entre rémunération du travail et du capital, avant même que les pouvoirs publics interviennent sous forme de prélèvements obligatoires ou de versements de quelconque prestation sociale. Ce qui veut dire aussi, par extension, que probablement, dans un pays comme la France, le degré d'inégalité qui est présenté par Piketty est beaucoup plus élevé que ce qui serait observé, puisqu'on est dans un pays où le système de redistribution est très développé, et on doit s'attendre du coup à des écarts qui sont beaucoup plus faibles que ce qui est présenté ici. Ce qui peut nous questionner, nous demander pourquoi est-ce que Piketty se focalise uniquement sur cette répartition primaire, alors même que la répartition secondaire est beaucoup plus juste. Il y a plusieurs raisons qui le mènent à ça. La première raison, c'est qu'il se focalise sur cette répartition primaire parce que ce sont ces revenus primaires que l'on communique, nous, beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus visibles. On communique sur notre salaire, on communique également sur les loyers qu'on peut percevoir en tant que propriétaire. Donc ce sont des choses qui, dans l'imaginaire collectif, sont beaucoup plus parlantes et beaucoup plus facilement, spontanément communiquées. La seconde raison pour laquelle il se focalise sur ces répartitions primaires, c'est que c'est une manière aussi de refléter à un moment donné nos choix de société. La manière dont notre société choisit de récompenser, de rémunérer ceux qui ont fourni du capital, du travail ou les deux. Peut-être même nous aider à nous questionner aussi sur ces choix qui sont faits lorsque parfois ils ont comme conséquence une hausse d'inégalité alors même que le mérite de chacun n'a pas forcément augmenté. Donc c'est une manière de refléter un petit peu nos choix de société et peut-être éventuellement les corriger en aval. Et ça nous indique également, c'est la troisième raison, le potentiel et l'effort correctif qui peut être attendu de la part des pouvoirs publics pour corriger ces inégalités en aval. Du coup, pour terminer, en guise de transition, cette notion de richesse, il est important de souligner qu'elle a quelque part une double dimension, puisque être riche, c'est peut-être à la fois percevoir des revenus du travail ou du capital qui sont importants, et c'est aussi être dépositaire d'un niveau de patrimoine, d'un niveau de capital qui est conséquent, qu'on a construit par soi-même ou qu'on a hérité et qu'on pourra peut-être transmettre. D'accord ? Donc c'est à la fois cette double dimension qu'il faut garder, et riche celui qui perçoit des revenus importants, et aussi riche celui qui, à un moment donné, à un instant T, a un niveau de patrimoine qui est important. Et à partir de là, on va se demander du coup ce qu'il en est en France en termes de répartition du revenu du travail et des revenus du capital.
Donc si on regarde la manière dont se répartit aujourd'hui, donc les dernières données qu'on a dans le livre, c'est 2010, la manière dont se répartit le revenu national, donc ce qu'on appelle le revenu national, en quelque sorte, c'est, vous l'avez compris, le PIB, à quelque chose près, hein, puisque cette production est entièrement redistribuée sous forme de revenus. En France, aujourd'hui, le revenu national, il est réparti de la manière suivante. C'est à peu près 2000 milliards d'euros chaque année, qui sont attribués aux 10% les plus riches. Il y a 35%, c'est 2000 milliards d'euros. Aux individus qui sont aux 40% qui sont situés entre les 50% les plus pauvres et les 10% les plus riches, on attribue 40% du revenu national, et puis la moitié la plus pauvre de la population se partage 25% du revenu national chaque année. Voilà, en gros, des indicateurs qui fixent un peu les choses sur la manière dont cette richesse qu'on produit chaque année est répartie. Cette répartition inégalitaire, elle vient, comme Amina l'a dit tout à l'heure, du fait que soit on a des qualifications et des responsabilités différentes, une contribution productive différente, selon qu'on travaille beaucoup, pas beaucoup, et puis aussi selon que l'on a plus ou moins de patrimoine. Ces inégalités de revenus, elles découlent de toutes ces choses en même temps. Quand on dit revenu, c'est on parle du revenu brut. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you.
the mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in.
Au fil des arts, sur Cooler FM 97.1, Blowing in the Wind de Bob Dylan. C'est une chanson de protestation écrite en 1962 pendant la guerre du Vietnam et le mouvement pour les droits civiques aux USA. Elle s'inspire d'un air traditionnel des esclaves noirs.
Alors, qu'est-ce qu'il en est, du coup, maintenant, du côté du patrimoine ? La répartition du patrimoine, le patrimoine en France en 2010, ce qu'on possède au total en France, c'est à peu près 12 000 milliards d'euros. Donc c'est un ordre de grandeur qu'on va retrouver par la suite, c'est 6 fois ce qu'on produit chaque année. Ces 12 000 milliards d'euros, ils se répartissent de la manière suivante. Les 10% les plus riches en patrimoine détiennent 60% de ces 12 000 milliards d'euros. Les 40% suivants en détiennent 35%. Et puis, les 40% encore suivants détiennent les 5 petits pourcents qui restent. Et puis, il y a 10% de la population qui ne détient aucun patrimoine. On est dans un type d'inégalité qui est cependant plus inégalitaire. Il y a des pays qui ont fait mieux que nous. C'est les pays scandinaves, en particulier dans les années 70-80, où la répartition du patrimoine est un peu moins inégalitaire, puisque les 10% les plus riches n'ont que, entre guillemets, 50% du patrimoine. Qu'il en reste en particulier 10% et non pas 5% pour les 50% les plus pauvres. Voilà, pour un tableau très rapide de ces quelques points de repère sur les inégalités des revenus et du patrimoine.
On rentre là au cœur de l'ouvrage de Piketty, hein, en centrant sur la France notre propos, mais effectivement d'observer quelle évolution des inégalités économiques on a connue, si je schématise, depuis 1910. On va se centrer sur temps en fait important de l'évolution des inégalités en France. Ce qu'on observe, c'est que donc en 1910, donc au moment où on a, donc à la Belle Époque, on a un niveau d'inégalité très prononcé en France. Donc ce qu'on observe, hein, c'est que plus de 45% du revenu national est accaparé par les 10% les plus riches. Donc les 10% les plus riches perçoivent quasiment effectivement la moitié du revenu national. Donc les inégalités sont très fortes. Et on voit qu'en 1945, la part du revenu national qui est perçue par les 10% les plus riches a énormément diminué. Donc on a eu une baisse flagrante très très importante des inégalités. Et donc, en 1945, les 10% des plus riches ne se partagent plus que 28% du revenu national. Comment Piketty arrive à expliquer cette baisse, cette très forte baisse des inégalités du revenu? On a déjà trois très grands chocs économiques majeurs. On a deux guerres. On a eu la crise de 1929. Et donc, principalement, donc, le choc de ces trois grands chocs économiques, notamment majeurs, est venu, en fait, détruire complètement, en très grande partie, les patrimoines. Si les revenus des 10% les plus riches se sont tellement amenuisés, c'est parce qu'ils ont perdu les revenus qui étaient liés à la possession de capital. Parce qu'en fait, ils ont perdu le capital et du coup, ils ont perdu les revenus
qui était lié à ce capital. Et de fait, en 1910, 90% effectivement du patrimoine était possédé par les 10% les plus riches. Donc ce sont eux qui ont perdu les revenus qui étaient attenants à ce capital-là. Donc ce sont eux qui ont vu la part de leurs revenus diminuer profondément. Donc la baisse des inégalités qu'on constate entre 1910 et 1945, elle est liée à une destruction suite au choc des guerres. Destruction du stock de patrimoine qui du coup a amené une perte de revenus extrêmement importante pour ces 10% qui possédaient en quasi-totalité les patrimoines de l'époque. On était donc en 1910, hein, pour prendre ça, on avait donc en France un stock total de patrimoine qui était équivalent à 6,5 fois notre revenu national. Et en 45, ce stock de capital par rapport au revenu national, il est tombé à 3 fois le revenu national. Donc cette perte, elle a été supportée principalement par ceux qui avaient le patrimoine, donc ces 10% les plus riches. Et donc, si on essaie de poursuivre l'analyse, on s'aperçoit que les 10% les plus riches, donc, qui possédaient 90% du patrimoine total, en 1945, ne possèdent plus que 75%, effectivement, de ce patrimoine total. Donc on arrive à cette situation de 45%. Ce qu'on observe, c'est qu'en 2010, donc aujourd'hui, les 10% les plus riches se partagent 35% du revenu national. Donc une part un peu plus élevée que celle de 45, mais qui reste relativement faible si on compare effectivement au stock, à la quantité, à la part du revenu national qui détenait effectivement à la belle époque. On a des inégalités de revenus qui ont un peu réaugmenté. Alors ce qui nous a semblé important là de retenir, c'est que les inégalités ont réaugmenté, certes, mais très peu. On reste à des niveaux d'inégalité qui sont très inférieurs à ceux de la belle époque. Alors que, en revanche, si on regarde l'évolution du stock de patrimoine, lui, il s'est reconstitué de manière très impressionnante. On est revenu à des niveaux de stock de patrimoine qui sont de l'ordre de 6 fois donc le revenu national. Donc on est très proche, si vous voulez, de la reconstitution du stock de patrimoine de celle qu'on avait en 1910. Pourquoi est-ce qu'on a pour autant des inégalités de revenus qui n'ont pas réaugmenté encore aujourd'hui de manière aussi importante?
On a vu que la baisse des inégalités de revenus, elle a eu lieu depuis le début du XXe, elle a eu lieu principalement dans cette période entre les années 1910 et 1945. On a vu que ces inégalités, à ce moment-là, elles ont diminué du fait d'événements politiques, économiques majeurs qui ont eu comme conséquence la destruction ou la dévalorisation d'une grande partie du stock de patrimoine. Du coup, la possession de ce patrimoine est devenue moins inégale, non pas parce que ce patrimoine a été réparti de manière plus inégalitaire entre la population, mais parce que ceux qui détenaient presque tout ce patrimoine ont vu leur patrimoine s'effondrer, se détruire, etc. Et depuis 1945, les inégalités de revenus varient, mais en tout cas, depuis 1945, elles restent à un niveau qui est bien moins important que celui qu'elles avaient en 1910. Si on regarde ce qui se passe du côté de la répartition du patrimoine, et en particulier de la part du patrimoine qui est détenu par les 10% les plus riches, en remontant un peu plus loin, on remarque que de 1810 à 1910, on a un patrimoine détenu à 80-90% par les 10% les plus riches. Cette part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches descend régulièrement, pour les raisons qu'on a vues, entre 1910 et 1950. Et puis, depuis 1970 même, et depuis 1970, on voit que la part du patrimoine détenu par les 10% les plus riches reste à un niveau, toujours assez élevé, mais beaucoup moins élevé, 60% du patrimoine est détenu par les 10% les plus riches. Et puis ça continue à baisser, et depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 60% du patrimoine total. Alors, ce qui apparaît ici, c'est que cette moindre concentration du patrimoine dans les mains des 10% les plus riches, elle s'est faite en très très grande partie au profit d'une partie de la population qui sont ceux-là. Il y a 35% du patrimoine total qui est détenu aujourd'hui par la partie, on pourrait dire, qui est là de la population, c'est-à-dire les 40% situés entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres. Et ça, c'est complètement nouveau. qu'il y ait une partie non négligeable de la population qui détienne 35% du patrimoine. Et c'est ce que Piketty appelle une classe moyenne patrimoniale. Et cette classe moyenne patrimoniale, elle est apparue à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Couleur FM 97.1, vous venez d'entendre Imagine de John Lennon, écrite avec une contribution de Yoko Ono. La chanson date de 1971 et dit l'espoir d'un monde en paix.
Ce que Piketty va chercher à expliquer, c'est l'enchaînement de ces différents tableaux d'inégalités. Donc il va chercher à répondre à trois questions. La première, c'est pourquoi jusqu'en 1910, on avait un patrimoine aussi concentré. Pourquoi ensuite, aujourd'hui, depuis les années 70, malgré le fait que le stock de patrimoine ait retrouvé son niveau qu'il avait à ce moment-là, on a un patrimoine beaucoup moins concentré. Et la troisième question qui va se poser, c'est, à l'avenir, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il cherche une explication générale, avec des grandeurs économiques, dont il va étudier l'évolution à long terme, pour expliquer ces trois choses-là. Pour comprendre cette grande évolution des inégalités de concentration du patrimoine, Piketty montre qu'il faut s'intéresser à deux grandeurs économiques fondamentales qui sont, d'une part, le taux de croissance économique, qu'il appelle G. Ce taux de croissance, donc, c'est ce qu'on a vu au début, hein, c'est le rythme auquel la production produite chaque année dans un pays augmente d'une année sur l'autre. Donc, par exemple, si le taux de croissance est de 1%, ça veut dire que le PIB de cette année est 1% plus élevé que le PIB de l'année précédente. Ça, c'est la première grandeur dont il va regarder l'évolution au cours du temps. Et la deuxième grandeur importante, c'est ce qu'il appelle petit R, qui est le taux de rendement du capital, c'est-à-dire ce que le patrimoine que l'on a nous rapporte chaque année. Par exemple, si je détiens un patrimoine dont le taux de rendement est de 5%, ça signifie que chaque année, sur ce patrimoine, mettons de 100, je reçois 5. Donc mon patrimoine, si je garde tout ce qu'il m'a rapporté, l'année prochaine, il sera plus de 100, il sera de 105. Donc ce taux de rendement du patrimoine, c'est en quelque sorte, ce taux de rendement, il peut représenter le rythme auquel le patrimoine augmente d'année en année. Donc voilà, il va comparer le taux de croissance, qui est le rythme auquel augmente la production d'une économie, donc la richesse produite chaque année dans une économie, et donc les revenus qui découlent de cette richesse, et R, qui est le taux de rendement du capital, qui peut être en partie, on va voir pourquoi, le rythme auquel ce capital peut se reproduire et se grandir chaque année. Piketty montre que c'est la comparaison du rythme auquel augmentent les revenus et le patrimoine va nous permettre de comprendre l'évolution des inégalités de concentration du patrimoine au cours du temps. Alors, il montre en particulier que si on se trouve dans une situation où pendant un certain temps, on a un taux de rendement du capital qui est supérieur au taux de croissance. C'est-à-dire que, par exemple, mon capital ou économie rapporte 5% par an et dans le même temps, la production chaque année de l'économie augmente seulement de 1 ou 2% par an. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? À ce moment-là, si par exemple j'ai un taux de rendement de 5% par an, ça signifie que même si je n'épargne qu'une petite partie, c'est-à-dire sur ce 5%, mettons, j'en mets de côté 2 ou 3, même si j'épargne seulement une petite partie de ce que me rapporte ce capital chaque année, ce capital va quand même augmenter plus vite que le revenu général de l'économie. Donc ça veut dire que les personnes qui détiennent du patrimoine, la part de ce qui est créé chaque année, qui va leur être redistribuée sous forme de revenus du patrimoine, va augmenter, alors que la part qui va rester pour les autres va diminuer. C'est ça le centre de son explication. C'est que si on rémunère davantage le capital que le taux de croissance, et suffisamment davantage pour que, en épargnant même seulement une partie, le capital progresse, grossisse à un rythme plus important que la richesse créée dans l'économie, eh bien la part de la richesse qu'on va prélever chaque année dans l'économie pour rémunérer ce capital va du coup augmenter. Et la part qui va rester pour tous les autres types de revenus va diminuer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça veut dire que ceux qui ont du patrimoine voient leurs revenus augmenter davantage que ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et ça veut dire que ceux qui ont beaucoup de patrimoine voient leurs revenus augmenter encore plus vite que tous les autres. Et la conséquence directe de ça, c'est que les inégalités potentiellement peuvent s'accroître indéfiniment pour que cette inégalité se réduise. Bien évidemment, si on avait tous exactement la même quantité de patrimoine dans l'économie, ça ne poserait aucun problème. C'est-à-dire que tous, on verrait nos revenus du capital progresser et on verrait la part du revenu total qui va à nos revenus du capital augmenter et la part de nos autres revenus qui baisse. Mais comme tout le monde en profiterait de la même manière, les inégalités ne changeraient pas. Là, vraiment, cette inégalité-là, elle montre comment, pour une répartition du patrimoine inégale au départ, cette répartition inégale ne peut que s'accentuer. Ça, c'est le raisonnement théorique. Depuis le début de notre ère, jusqu'aux années 1913-1950, on a un taux de croissance de la production au niveau mondial qui est très faible, entre 0 et 2%. Ce taux de croissance commence à être important à une période particulière qui est le début du 19e, fin 18e, début 19e, période de la révolution industrielle. Des innovations, la croissance démographique, plein de choses qui permettent d'augmenter à la fois la production, la productivité. Et du coup, le taux de croissance commence à être un petit peu plus important. Mais auparavant, les économies étaient vraiment, en général, complètement stationnaires. Elles produisaient chaque année la même chose. Sur toute cette période, on a un taux de croissance très faible et on a un taux de rendement du capital très élevé, autour de 4-5% sur toute la période. À partir des années 1913-1950, donc la croissance augmente, est beaucoup plus importante, en particulier à partir des années 50, dans les pays occidentaux, c'est la période des 30 glorieuses, une productivité très très forte qui permet que chaque année, le PIB, en France par exemple, il augmente de 5% chaque année. C'est des taux qu'on n'a jamais connus avant et qu'on n'a jamais plus connus depuis et qu'on connaîtra sans doute plus jamais. Et donc ce qui explique que ce taux de croissance au niveau mondial remonte sur toute cette période de la moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe du côté du taux de rendement du capital ? L'inverse. Le taux de rendement du capital réaugmente depuis le milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, il a tendance même à continuer d'augmenter. Alors, sous l'effet de plusieurs choses, mais en particulier sous l'effet de la concurrence fiscale qui se fait entre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la globalisation, les États ont tendance à se faire concurrence pour attirer les capitaux sur la fiscalité qu'ils appliquent à ce patrimoine. Ce qui entraîne une tendance immédiatement à l'augmentation du rendement que permet ce patrimoine. Donc sur cette période-là, le rendement du patrimoine a tendance à augmenter, mais il reste inférieur au taux de croissance de l'économie mondiale. Ce qui explique que jusqu'à aujourd'hui, on soit resté dans une situation où la concentration du patrimoine n'a pas retrouvé les niveaux qu'on avait au début du XXe siècle. Et donc, la dernière question qu'on s'était posée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir venir des inégalités plus tard ? Alors, là, on rentre dans la prévision. Il suppose, par exemple, concernant le taux de croissance au niveau mondial, qu'il va revenir à des niveaux très faibles, pour deux raisons. Certains disent parce que la productivité ne va pas augmenter indéfiniment à des rythmes aussi importants que ceux qu'on a connus pendant les Trente Glorieuses ou que certains pays émergents connaissent aujourd'hui parce qu'ils sont dans un phénomène de rattrapage. Et puis il y a une autre raison, c'est que la population mondiale va commencer à augmenter beaucoup moins vite. Et la population, c'est la source avec la productivité principale d'augmentation de la production du monde. Si la population augmente moins vite, la production augmentera moins vite parce qu'il y aura moins de travail, enfin un travail qui augmente moins rapidement. Donc il montre qu'on peut supposer, et c'est encore une supposition qui est assez optimiste, que le taux de croissance économique arrive dans le siècle à venir à des taux qui seraient entre 1 et 2%. Dans le même coup, on peut aussi supposer, alors là il suppose, que le taux de rendement du capital continue d'augmenter, sous l'effet principalement de la concurrence fiscale entre pays, pour faire venir les capitaux et du coup diminuer les impôts qui sont prélevés sur ce patrimoine. Alors là, il suppose, pour faire ces points-là, qu'il n'y aura plus du tout d'impôts sur le patrimoine. Mais même si on reste au niveau d'aujourd'hui, il dit en moyenne c'est 30%. L'imposition globale dans les pays comme les nôtres aujourd'hui du patrimoine, c'est 30% du rendement du patrimoine. Et donc, si on reste au niveau d'aujourd'hui, on voit que ce taux de rendement du patrimoine, assez vite, il va se retrouver supérieur de nouveau au taux de croissance de l'économie mondiale. Automatiquement, on revient à la situation dans laquelle on était ici, c'est-à-dire une progression du patrimoine plus rapide que la progression du revenu, et donc une part de ce revenu qui va aller au patrimoine, qui prend de plus en plus de place dans la richesse nationale, au détriment de tous les autres types de revenus. Et donc une concentration de plus en plus importante de ce patrimoine dans les mains de quelques-uns. Si rien n'est fait, on peut très bien aujourd'hui retrouver progressivement dans les décennies à venir une progression vers des niveaux de concentration du patrimoine aussi importants que ceux qu'on connaissait au début du XXe siècle. Avec toutes les conséquences en termes de cohésion sociale, violence, etc. qu'on peut imaginer. D'autant plus qu'on est aujourd'hui dans des sociétés démocratiques dans lesquelles le niveau d'inégalité est bien moins acceptable et accepté que dans des sociétés autoritaires, non démocratiques. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, bandera de unidad. Y tú vendrás. Tu canto y tu bandera.
El sueño existe y como todos los sueños se construye con lo que hemos vivido. Nuestro sueño es un país democrático que respeta los derechos humanos, donde hay justicia, verdad y reconciliación, donde hay respeto y veneración por los héroes caídos. ¡Viva Allende! ¡Viva, ¡viva Chile!
¡Viva! Toujours sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre El Pueblo Unido jamás será vencido, le peuple uni jamais ne sera vaincu, chanson chilienne écrite par le groupe Quilapayún et composée par Sergio Ortega. Elle a été enregistrée pour la première fois en juillet 1973, 3 mois avant la prise du pouvoir par le général Pinochet.
Alors, on va du coup proposer dans cette dernière partie les solutions qui sont proposées par Piketty. On va d'abord faire un état des lieux de la situation française et puis on va ensuite proposer du coup ce qu'il envisage de mettre en place à la fois sur le plan national et sur le plan international. Avant tout, on va juste faire un petit rappel sur le vocabulaire qui est en rapport avec la fiscalité et les différentes familles ou catégories d'impôts qui existent. Alors, il y en a 3 principalement. Il y a d'abord l'impôt forfaitaire, il y a ensuite l'impôt proportionnel, et puis on a l'impôt progressif, où là, l'idée est en fait de décomposer ce qu'on appelle l'assiette fiscale, en fait la base, en différentes tranches, et en associant à chacune de ces tranches un taux d'imposition qui sera grandissant. Alors, de ces 3 formes d'impôt, forfaitaire, proportionnel et progressif, c'est l'impôt progressif qui est le plus à même à réduire massivement en fait les inégalités. Et plus la progressivité est forte, plus il y a de tranches et plus les taux qui sont associés à ces tranches sont importants, plus on parviendra à réduire les inégalités. Donc, juste un petit exemple pour vous un peu trouver les choses. Donc, on part d'une société un petit peu fictive où il y aurait 2 individus, un individu A, un individu B, et où la richesse générée sur ce petit pays serait de 4000 euros. D'accord ? Donc, on suppose que cet individu A dispose de 3000 euros, ce qui est à peu près 3/4 de la richesse exactement, 3/4 de la richesse nationale, lorsque l'individu B dispose du résidu, donc 1000 euros, 1/4 de la richesse nationale. Donc on prend le premier impôt possible, l'impôt forfaitaire, on imagine un prélèvement de 100 euros pour tous, donc il resterait à l'individu A 2900 euros et à l'individu B 900 euros, ce qui fait que désormais l'individu A dispose de 76% de la richesse nationale, lorsque l'individu B dispose de 24% de la richesse nationale. Donc en termes de comparaison par rapport à la situation initiale, on a ici une hausse des inégalités. Si on prend l'impôt proportionnel et qu'on suppose ici un prélèvement qui serait autour de 10%, l'individu A dispose désormais de 2700 euros, lorsque l'individu B dispose de 900 euros. Il n'y a pas eu d'effet en termes de correction des inégalités, puisque la répartition est la même que la situation initiale. Et enfin, l'impôt progressif qui nous intéresse le plus, où là on imagine 2 tranches, une première tranche s'étalant jusqu'à 1000 euros, et une seconde tranche allant de là. Sur la première tranche, un taux de prélèvement de 10%, sur la seconde 20%. Il reste désormais à l'individu A 2500 euros, 74% de la richesse nationale, et à l'individu B 900 euros, 26% de la richesse nationale. Et là, on a effectivement une baisse. À partir de là, on peut se demander du coup ce que préconise Piketty pour réduire les inégalités. Piketty pense qu'il faut remettre en place un système fiscal avec une forte progressivité. De façon globale, donc du coup, Piketty nous dit qu'on peut et on est outillé pour revenir à ce qu'on avait pu observer dans les années 50. C'est une décision démocratique qu'il faut prendre. De par ses calculs, il arrive à établir un taux d'imposition qu'il caractérise comme optimal. Et ce taux d'imposition serait de 82%. Parce qu'au-delà de 82%, il y aurait une désincitation assez forte pour les gens à avoir une activité. Et en deçà, il ne serait pas optimal dans la mesure où on n'aurait pas les possibilités de faire travailler les gens. préconise aussi d'imposer non pas que les revenus du capital, mais aussi ce stock de capital, ce stock de patrimoine. Et là, la solution, elle est envisagée au niveau international.
Donc, Thomas Piketty, dans ses solutions fiscales qu'il propose, donc il propose de revenir à des taux d'imposition marginale supérieure élevés, donc il nous dit 82%, donc ce serait une première idée. Ça a un effet désincitatif très fort, hein, de dire... Mais Piketty nous dit, en fait, la véritable solution et le cœur des solutions qu'il préconise, c'est non pas de taxer les revenus du travail ou du capital, mais c'est principalement de taxer le stock de capital. Et donc, il prévoit, Piketty, la solution pour lui, hein, ce serait de mettre en place un impôt mondial qui porterait sur le stock de capital. Alors, cette info, il prendrait une forme, pour Piketty, il prendrait une forme assez simple qui est... très similaire à l'impôt à l'ISF qu'on connaît aujourd'hui, avec quelques petites différences. Mais donc, ce qu'il imagine, c'est donc chaque année de taxer le stock de capital, donc de ne pas taxer le capital au-dessous de 1 million d'euros. Donc, un taux de 0%, donc pour les gens qui ont de 0 à 1 million d'euros, un taux de 1% du stock de capital entre 1 million d'euros et 5 millions d'euros, et ensuite un taux de 2%. Pour les patrimoines qui valent plus de 5 millions d'euros. Donc sa préconisation, c'est chaque année, effectivement, d'opérer cet impôt-là, ce prélèvement-là sur le stock de capital. Donc ce sera un impôt progressif. Il doit veiller à porter sur tous les types d'actifs, aussi notamment les actifs professionnels, immobiliers, financiers, hein, qu'on a du mal à taxer. Ça, ce serait la première chose. Deuxième chose, pour Piketty, cet impôt-là mondial sur le stock de capital, il aurait deux effets très importants. Le premier effet, ce serait de réduire vraiment les inégalités. Il insiste sur le fait que cet impôt-là, il ne va pas financer l'État social. Il rapporterait en fait peu de choses. Il estime qu'en Europe, seuls 2,5% de la population serait sujette à cet impôt-là. Donc effectivement, ça concerne... Bon, peu de monde, et ça ramènerait des recettes fiscales qui seraient équivalentes maximum à 3 ou 4% du PIB. C'est pas rien, mais voilà, c'est pas de là qu'on va générer des recettes fiscales importantes. En revanche, l'intérêt, c'est que ça va être la seule manière de réellement réduire et corriger les inégalités. Piketty le montre, on n'arrive pas à taxer les revenus des individus, et notamment les revenus du capital. Et ça s'explique de manière... bon, pas forcément très technique. L'idée, c'est que les individus ayant un stock de patrimoine très élevé, ce patrimoine, on l'a vu, génère des revenus. Ces revenus sont tellement importants, les revenus générés par les patrimoines sont tellement importants que même en vivant avec énormément de goût, énormément d'élégance, on ne les utilise pas. Deuxième chose que Piketty évoque, hein, c'est l'impôt, en fait, c'est toujours plus que lui-même. C'est plus que des recettes fiscales, c'est plus qu'une correction des inégalités. En fait, il est très important dans un pays de connaître les patrimoines. Et Piketty dit mettre en place un impôt sur le patrimoine, sur le stock, va permettre de produire de la connaissance sur les patrimoines. Et cette connaissance sur les patrimoines, elle est essentielle pour piloter une société. Elle est essentielle pour piloter une société dans une gestion quotidienne, de savoir quels sont les projets collectifs et quelle base financière on a pour les financer, en fait. Quelle est la capacité contributive des Français pour mener à bien, je ne sais pas, une transition écologique. On ne peut pas avoir de débat serein sur les grandes orientations de la société si on n'a pas connaissance, en fait, de la capacité de notre société à contribuer financièrement à ces projets-là. Donc ce serait la première chose, c'est que taxer les stocks nous permettrait déjà d'avoir une image, en fait, de la contribution qu'on est en capacité de faire. Donc ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, notamment dès qu'il y a des crises, et c'est le cas notamment quand on a des crises financières, on ne peut pas piloter si on ne sait pas qui a quoi la gestion de la crise financière. L'exemple le plus frappant dont il parle dans son ouvrage, c'est la crise chypriote. On a une crise bancaire, il faut agir, mais on ne sait pas qui détient quoi. Et ce fut le cas pendant la crise des subprimes également. Donc quand il y a un problème, si à un moment le système se grippe pour diverses raisons, on ne peut pas intervenir, on n'arrivera pas à gérer ça si on ne sait pas où sont les actifs.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" Watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
Couleur FM 97.1, au fil des arts, What a Wonderful World, une chanson de Bob Thiel et George Weiss, enregistrée pour la première fois par Louis Armstrong en 1967. Elle est ici interprétée par Stacey Kent.
L'impôt apporte toujours vraiment beaucoup, beaucoup plus que lui-même. Il permet d'organiser en fait l'activité économique. Et sans impôt, on ne peut pas avoir de choix et de débat démocratique serein et honnête sur ce qu'on veut pour nos sociétés. Et voilà, concernant la mise en œuvre pratique de cet impôt pour Piketty, alors il imagine que cet impôt, il pourrait fonctionner sur le mode des déclarations pré-remplies, comme on a pour l'impôt sur le revenu. Ce que Thomas Piketty nous dit, c'est que déjà, c'est techniquement très simple à réaliser. En fait, il suffirait qu'il y ait un peu de communication dans les différentes administrations, mais en fait, ces informations, l'État les a déjà dans les bilans des assurances, donc ces informations, elles sont disponibles. Il faudrait simplement les recompiler dans un même document et donc ils seraient envoyés aux individus en évaluant le prix de leurs actifs au prix du marché actuel. Mais on est en capacité de savoir quelle est la quantité de capital qu'ont les gens, et du coup de produire un document qui synthétise tout ça, et donc qui serait pré-rempli par l'administration, ce qui aurait l'avantage d'être plus simple, hein, et ce qui éviterait aussi l'écueil qu'on observe très souvent, qui est de sous-évaluer au moment où on déclare la valeur de ces biens. Ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, on a quand même effectivement une grande tendance à sous-estimer la valeur de ces biens quand on fait soi-même la déclaration de ce qu'on possède. Techniquement, ce serait simple. Après, ça nécessite une mise en relation et une circulation des informations bancaires internationales, c'est-à-dire entre tous les pays du monde, pour être réellement efficace. Donc, effectivement, il y a un enjeu fort à mettre en place des accords internationaux qui permettraient la circulation de données interbancaires, qui permettraient donc d'établir une réelle taxation du stock de capital. Il présente sa solution comme étant ce qu'il appelle une utopie utile. Il dit cette idée de taxer le stock de capital, premier avantage, ça peut être la référence à partir de laquelle on va juger toutes les autres propositions qu'on va nous faire politiquement pour réduire les inégalités. Deuxième chose, il établit que c'est une solution qui a l'avantage d'être réalisable sans remettre en cause l'ouverture internationale, sachant qu'on est dans un monde mondialisé, effectivement. Il dit que c'est compatible avec le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On ne demande pas de mettre en place des mesures protectionnistes, d'aller à l'encontre des principes du libéralisme économique. Il dit qu'on demande juste de la circulation d'informations. Donc c'est tout à fait compatible avec le système tel qu'il est actuellement. Et il dit enfin, on n'est pas obligé de le mettre d'emblée, cet impôt, on n'est pas obligé de le mettre en place d'emblée au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Il est tout à fait possible de le mettre en place à plus petite échelle, entre quelques pays européens. L'impôt pour Piketty, c'est vraiment un impératif démocratique. Il n'y a rien de collectif qui peut se faire sans mobilisation fiscale.
Quelques mots en conclusion. On voulait quand même vous donner à entendre et un petit extrait de la prose de Thomas Piketty. Et donc, dans sa conclusion, Thomas Piketty dit que depuis ses origines, l'économie politique cherche à étudier scientifiquement, ou tout au moins rationnellement, quel doit être le rôle idéal de l'État dans l'organisation économique et sociale d'un pays, et quelles sont les institutions et les politiques publiques qui nous rapprochent le plus d'une société idéale. Il dit que cette prétention invraisemblable à étudier le bien et le mal, qui est une matière dont chaque citoyen est avant tout le spécialiste, peut faire sourire. Mais qu'en même temps, elle est nécessaire. Les chercheurs en sciences sociales, comme d'ailleurs tous les intellectuels et surtout tous les citoyens, doivent s'engager dans le débat public. Et cet engagement ne peut pas se faire au nom de principes abstraits. Il doit s'incarner dans des choix et des politiques précises. Tout le monde fait de la politique à la place qui est la sienne. Il n'y a pas d'un côté une fine élite de responsables politiques et de l'autre une armée de commentateurs et de spectateurs tout juste bons à mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Cette partie de sa conclusion montre bien quel est l'objectif de la démarche de Thomas Piketty. Et nous, on voulait simplement finir en disant quelques mots sur notre démarche à nous, beaucoup plus petite. Mais notre démarche, c'est vraiment une tentative de transmettre ce qui nous a semblé essentiel dans ce livre, dans une optique d'un acte citoyen, pour faire un petit pas de plus vers la démocratie.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Mmh.